franceinter.fr.
Deux physiciens bretons pensent avoir percé le secret de la dyslexie. Ça se passe au fond des yeux, comme vous allez le comprendre.
Installe-toi confortablement devant ton écran et joue avec moi. La lettre B, comme baleine ou bateau. Le D, comme dauphin. As-tu tout bien retenu ? Répète avec moi.
Et si les troubles de la lecture des personnes dyslexiques étaient dus simplement à des différences biologiques minuscules cachées tout au fond de leurs yeux? Cette hypothèse, publiée avant-hier par deux physiciens rennais, a surpris tout le monde et leur démonstration est plutôt convaincante. On en parle avec vous, Axel Villard.
Et oui, Mathieu, on est au téléphone avec Albert Le Floch. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chercheur retraité, ancien professeur à l'université de Rennes, au département de physique des lasers. Et vous allez nous l'expliquer, comment vous en êtes venu à vous intéresser à la dyslexie? Vous êtes physicien et votre co-auteur aussi, je crois.
Oui, donc mon co-auteur, c'est donc Guy Repars, il est à côté de moi d'ailleurs. Et donc, comment on y est venu? Eh bien, parce que d'abord, la curiosité scientifique de chacun d'entre nous. Donc, et d'autre part, surtout le fait qu'on est des physiciens, de modestes physiciens, mais bon, beaucoup versés vers l'optique, parce que donc, moi, par exemple, j'étais le responsable du labo de physique des lasers, donc j'ai utilisé la lumière pendant longtemps, donc c'est passé aux yeux, évidemment, qui sont les capteurs de la lumière, et d'où, bon voilà, donc on est arrivé assez vite aux yeux.
Expliquez-nous un peu ce que vous avez fait. Vous êtes allé voir dans les yeux de vos étudiants, je crois.
Voilà, exactement. On a eu la chance ici d'être aidé un peu pour former en quelque sorte deux cohortes, une cohorte de 30 étudiants sans problème spécifique, quoi disons, qui nous servait de référence, et puis donc une deuxième cohorte de 30 étudiants donc qui avaient des troubles 10, qui étaient donc répertoriés par l'université, suivis par l'université, et qui se sont prêtés avec beaucoup d'enthousiasme à nos tests.
Alors qu'est-ce que vous avez trouvé au fond de leurs yeux ?
Eh bien, ce qu'on a trouvé, c'était donc, en gros, c'est quand même l'essentiel, c'est une asymétrie, enfin plutôt, pour eux, une absence d'asymétrie entre les deux yeux. Donc, voilà, parce que donc, chez chacun d'entre nous, on a deux yeux, un seul cerveau. Le cerveau est amené donc à, évidemment, s'appuyer sur l'un des deux yeux, parce que les informations ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, pour comprendre, d'abord, il nous a fallu donc introduire une méthode pour reconnaître l'œil dominant. Mmh. Bon, ça, c'est une première chose. Et une fois cet œil dominant l'a identifié, notamment chez ce qu'on appelait les contrôles, eh bien, il nous a fallu essayer de comprendre d'où ça venait. C'est là qu'on s'est focalisé sur le fond de l'œil.
Albert Le Floch, parce que ça veut dire qu'on a tous un œil dominant, c'est ça?
Ah oui, tout à fait. Oui, il faut un œil dominant, droit ou gauche. En gros, grosso modo, c'est deux tiers des gens qui sont droitiers et un tiers gaucher. Alors que, mais ça n'est pas lié à la main, hein, parce qu'à la main, c'est 1 pour 10, un gaucher pour 10 droitiers.
Cette différence anatomique dont vous parlez, elle fait quelle taille?
Alors c'est tout petit, parce que donc, en gros, hein, un œil, c'est 1,2 million de fibres qui vont droit au cerveau central. Mmh. Bon. Et parmi ces 1,2 million de fibres, il y a la moitié qui viennent d'un millimètre carré, la fovéa, là où on a les dixièmes, là où on a la grande précision, tout ce qui est autour, disons, a un autre rôle, mais l'essentiel de tout ce qui est l'acuité et autres se passe dans ce millimètre carré-là. Mmh. Et là-dedans, on a eu la curiosité donc d'aller regarder une toute petite partie de ce millimètre carré, et à ce moment-là, on voit un petit disque qui fait, lui, de 100 à 150 microns de diamètre, qu'on appelle le Maxwell centroïde, parce que Maxwell avait observé déjà ça il y a donc vers les années donc 1850, etc. On appelle ça la tâche de Maxwell, et on a essayé de regarder ça de près.
Et ce que vous montrez, c'est que les personnes dyslexiques ont exactement la même tâche de Maxwell dans l'œil droit et dans l'œil gauche. Pourquoi ça pose problème ?
Eh bien, justement, chez quelqu'un qui n'a pas de problème, bon, il y a un œil qui donc est prépondérant, donc le cerveau s'appuie sur cet œil-là et, en quelque sorte, ignore le second. Par contre, chez les dyslexiques, ils ont deux yeux parfaitement symétriques, on l'a vu, donc ils peuvent le voir, Donc avec un appareil qu'on a fait à Rennes, qu'on appelle le fovéascope, ils peuvent même tracer le contour de du trou là où il n'y a pas de cône bleu, et donc dans l'œil droit, dans l'œil gauche, et quand on regarde ce qu'ils nous tracent, évidemment, eux, ils voient deux ronds. Pour les deux yeux, il n'y a aucune différence entre les deux yeux.
Donc ça veut dire que les dyslexiques ont des yeux qui sont presque meilleurs que les autres, alors, ou pas?
Oui, c'est un peu le paradoxe. Ça dépend meilleur pourquoi.
Mais oui.
C'est meilleur, évidemment, parce que donc, à la limite, ils ont deux solutions. Mais le drame, c'est que le cerveau, lui, derrière, il n'en veut qu'une des solutions.
Alors comment... Allez-y.
Donc, vous l'obligez, enfin, chez les dyslexiques, le cerveau est obligé de s'appuyer. Tantôt, il s'appuie sur un œil, tantôt sur l'autre. Les informations ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est une fatigue supplémentaire. Enfin, puis d'autres ennuis qu'on va voir peut-être tout à l'heure, qu'on va évoquer peut-être tout à l'heure.
Comment est-ce que les chercheurs de votre domaine ont réagi à la lecture de vos travaux? Vous avez eu des contacts avec eux un petit peu?
Assez peu. On a eu énormément d'appels. Enfin, ça vient d'un peu partout. C'est quand même assez drôle. On n'y est pour rien parce que donc on n'a aucune relation spéciale. C'est la revue sans doute qui a dû populariser l'affaire. Mais bon, il nous revient des tas de remarques, de suggestions. Mais je sais aussi que ce qu'on annonce là, ce n'est pas tout à fait donc la voix visuelle comme on l'entend, comme beaucoup de gens l'entendent. C'est vrai que c'est relatif aux yeux, mais les yeux des deux cohortes étaient à peu près les mêmes en termes de dixième, en termes de qualité de l'œil. C'est pas un problème de qualité des yeux, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un problème de génétique sur la distribution des cônes bleus dans la fovéa.
Alors Albert Le Floch, non seulement vous avez compris le mécanisme qui pourrait expliquer la dyslexie, mais en plus vous avez trouvé une technique pour corriger le trouble.
Peut-être aussi. Je vais essayer de le dire en quelques mots. Voilà, lorsque c'est connu ça. Donc, quand on regarde les 700 millions de dyslexiques de par le monde, une caractéristique est la difficulté qu'ont ces personnes-là de trier entre la gauche et la droite. Bon. Et en particulier, quand on leur montre une lettre comme le B, par exemple, ça c'est le cas classique qu'on trouve un peu partout, on montre un B, à quelqu'un qui n'a pas de problème. Quand il regarde l'after-image, il voit le B, donc l'inverse, comme dans un appareil photo, un B noir, on le voit en blanc quand on ferme les yeux. Bien. On fait la même manip avec un dyslexique. Le drame, pour eux, c'est que, pour certains, lorsqu'on leur montre un B, eh bien, ils ferment les yeux, et là, ils voient le B, mais aussi l'image miroir, c'est-à-dire le D.
Mm-hmm.
Et évidemment, c'est ça qui les gêne. C'est vrai pour le B, c'est vrai pour toutes les autres lettres. Et donc, il y a l'existence de l'image miroir, ça veut dire que le B s'est formé, par exemple, sur l'hémisphère gauche, et il va être projeté sur l'hémisphère droit automatiquement, par donc des connexions nerveuses, comme le corps calleux, et des choses comme ça. Mais le D, à ce moment-là, doit aller de gauche à droite et faire 10 cm de plus.
Parlez-nous de votre lampe, s'il vous plaît.
Je vais y arriver. Donc, il y a donc un écart donc de 10 millisecondes et on a fait une lampe. Donc, on a essayé de mettre au point une lampe par rapport à la continue où, donc, on va hacher la lumière et cacher. Quand le dé arrive, comme le dé arrive un peu plus tard, eh bien, on essaye d'éteindre la lampe de façon à atténuer le dé.
Est-ce que vous avez testé la lampe avec des personnes dyslexiques?
Ça marche.
Pardon ?
Ça marche apparemment. Ça marche sur les patients.
Ah oui, la lampe actuellement sous sa forme, elle est fonctionnelle depuis, mettons, 4-5 mois. Tous les derniers étudiants qu'on a pu voir durant ces mois-là constatent que quand ils font la même lecture sur une lampe ordinaire, avec des LED en quelque sorte, comme une lampe de bureau, et lorsqu'ils passent de l'autre côté avec la lampe, donc on a un peu adapté donc avec l'alimentation, eh bien, curieusement, d'une part, le dé disparaît et la lecture devient triviale.
À suivre donc, intéressant parce que tout le monde s'est fait l'écho de vos travaux. Je sais qu'il y a même des Américains qui aimeraient bien breveter déjà cette lampe, donc il va y avoir des choses qui vont se passer dans ce domaine dans les mois qui viennent. En tout cas, très intéressant de suivre vos découvertes, Albert Le Floch, avec Guy Ropars. Merci beaucoup pour vos explications et Axel, passez un bon week-end.
Bon week-end.
À lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les premiers hommes d'Europe ont peut-être eu affaire au redoutable tigre à dents de sabre, une nouvelle mâchoire de prédateur préhistorique grand comme un tigre et dont les canines supérieures pouvaient atteindre plus de 20 cm, permet aujourd'hui de dire que ce tigre était certainement en Europe en même temps que les hommes il y a 50 000 ans. Cette mâchoire découverte dans la mer du Nord était très difficile à dater, mais l'analyse de son ADN permet aujourd'hui aux chercheurs de dire qu'elle était contemporaine à une autre espèce de tigre américaine ayant survécu jusqu'à 11 000 ans. L'urine pourrait peut-être nous aider à comprendre Encelade, la petite lune de Saturne. Plusieurs astronautes dans l'espace ont rapporté que l'urine humaine, lorsqu'elle est jetée dans le vide et le froid de l'espace, crée de jolis cristaux brillants et scintillants au soleil. Une équipe de chercheurs pense aujourd'hui qu'en étudiant de près la formation de ces cristaux d'urine, en la comparant à ceux qui se forment dans les panaches d'eau d'Encelade, ils pourront mieux comprendre leur composition. Les scientifiques pensent pouvoir mettre en place un protocole assez rapidement dans l'ISS. Et puis un premier pas en France vers une reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Les premières assises nationales des médecines conventionnelles et chinoises se tiennent à partir d'aujourd'hui à Lyon. Elles se fixent comme objectif principal la rédaction d'un projet de loi pour la reconnaissance et l'intégration de la médecine traditionnelle chinoise début 2018. L'un des premiers hôpitaux français à s'ouvrir à la médecine traditionnelle chinoise a été la Pitié-Salpêtrière à Paris avec le Centre intégré de médecine chinoise, créé en 2009.